Dominique Froch est en résidence en Loir-et-Cher, et ce jusqu'à la fin du mois de mai, pour des rencontres avec le public du département lors de lectures en médiathèque, collège, maison de quartier, conservatoire, maison d'arrêt. Un programme particulièrement chargé pour Dominique Froch, qui nous fait l'amitié d'être notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour, Denis.
Oui, c'est cela même. Enchanté. Ouais. Merci de nous réserver quelques instants. Je le disais, dans un programme très chargé. Cette résidence à Chambord, pas seulement. C'est quoi ? Expliquez-nous en quelques mots.
Je ne sais pas, j'ai rencontré Yannick Mercouarol aux États-Unis quand je cherchais ce que je ne savais pas que j'allais trouver. on trouve toujours autre chose. Et je me suis retrouvée à travailler aux États-Unis avec Yannick, qui lui-même était attaché culturel et n'était pas censé monter un festival d'auteurs contemporains américains et français à Chicago. Mais il a débordé de son travail. Je me suis retrouvée à croiser son chemin et après être parti sans trop d'argent aux États-Unis, j'ai fini avec 4 ou 5 allers-retours payés, motel 5 étoiles et l'inscription d'un auteur français dont j'ai parlé là-bas, entre autres à Yannick, inscription dans son festival. J'ai joué j'ai joué dans les universités, j'ai donné des cours à la grande université de Chicago et ainsi que des interventions comme celles que je fais autour de Chambord. Et j'ai inscrit dans le programme de son festival, où il a inscrit plutôt, cet auteur que je lui avais revendiqué. J'avais au sein de cette mise en scène inscrit La Nuit transfigurée de Schoenberg, dont j'avais fait une transcription pour piano, violon, violoncelle, et j'ai joué là-bas la version piano avec des gens du Philharmonique de Chicago. C'est quelques années après que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là, mais qu'est-ce que c'était. Et Yannick est revenu vers moi au moment où il a eu la programmation culturelle de Chambord, et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Chambord? Qu'est-ce que, si je te donne Chambord 3 soirs, qu'est-ce que t'en ferais? Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Je le vous voyez à cette époque, je le vous vois toujours. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce cake? Mais en même temps, j'avais toute l'enfance qui me remontait à la figure, Chambord. Et donc, on s'est embarqué dans une histoire où, pareil, elle était tellement forte que je me suis pas rendu compte de ce qu'on faisait sur le coup. Mais je crois vraiment, c'était l'éloge de la folie d'Erasme. On a pris ce texte-là et je me suis fait le château. C'est-à-dire, il y avait des gens dehors, 300 personnes qui ont regardé ça 3 soirs de suite. On a répété, j'ai conçu quelque chose avec le château que j'enjambais de partout. Je suis assez sportive comme fille et je me montais les escaliers de partout et j'intervenais sur les différents balcons, etc. J'ai même été chanter un mec très connu, Sous les étoiles, une très belle chanson que j'ai chantée Sous les étoiles. Bon, c'est pareil, 3 ans après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Et puis on a remis ça en 2014 avec une histoire que j'ai construite aux États-Unis, qui était autour de Paul, la correspondance entre Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Et donc, Yannick a invité cette chose qui s'était très bien passée à San Francisco, New York, Chicago, non pas Chicago, Boston, à venir à Chambord, au sein de son festival qui s'appelle Les Nuits Insolites.
Voilà, donc à la base, c'est une rencontre, en fait, hein, c'est ça ?
Bah ouais.
C'est comme souvent ?
Oui, hein, ça commence par une rencontre et puis il n'y a rien qu'à tenir à continuer, c'est juste on pose un truc, une borne, un truc, un événement, et puis après on se fiche la paix pendant quelques mois et puis on recommence à causer ensemble au téléphone, et puis la causerie mène sur une autre borne deux, trois ans plus tard. Voilà, ça se fait comme ça, je ne sais pas si ça continuera, mais voilà, ce sont des choses inattendues. Mais finalement, ça correspond très bien avec les amis que j'ai dans la vie. C'est jamais des gens dont j'ai dit ce sont mes amis. C'est 30 ans plus tard, je me dis, mais merde, on se voit toujours. Et voilà, ce ne sont pas des choses qui existent avant d'exister. Mmh. Elles ont un point de départ et puis on constate quelques années après qu'elles existent toujours.
Vous avez déjà fait une intervention, me semble-t-il, le 28 avril dernier à Saint-Laurent-Nouan, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. C'était quoi ? Comment ça s'est passé ? Expliquez-nous.
Eh ben, j'avais rencontré trois dames qui dirigent les médiathèques, bibliothèques de la région du Grand Chambord, je crois que ça s'appelle, à Mer, à Mont et à Saint-Laurent. Et on avait discuté un matin pendant 2 heures. Je leur avais dit que je m'étais forcé de... je préférais... circonscrire ce dont je pouvais leur parler à trois auteurs, un qui m'était tombé dessus, un autre qui s'appelle Éric Vuillard, que j'ai participé, que j'ai même été la première à pousser sur les plateaux, et au moment où il avait écrit Tohu, donc juste avant tous ces récits qui sont en enfilade aujourd'hui, pardon, hein, je prends quelques détours, donc Eric, c'est aujourd'hui, il est parti dans une sorte d'autre écriture. Avant, il se laissait happer par le langage, et puis maintenant, il y a eu un tournant, d'ailleurs il a changé d'éditeur au moment où il y a eu ce tournant, et c'est une manière de prendre l'histoire et de lui faire raconter quelque chose qu'elle n'a pas encore raconté, même s'il se trompe, même s'il subodore, il y a un regard dont il est porteur et qui fait jauger l'histoire à partir d'une autre porte, quoi. Et donc, Éric Vuillard s'est mis à parler des conquistadors, au travers de La tristesse de la terre, ce livre, il s'est mis à parler de celui qu'on appelle Buffalo Bill et de l'anéantissement des Amérindiens. Puis, il s'est mis à parler de la guerre de 14, du Congo belge, toujours en mettant un chemin entre l'horreur sur le terrain, l'horreur qui se passe sur le terrain, et les décisions diplomatiques qui sont d'un ordre où on voit les gens dans leurs réunions avec leur... il en parle avec une colère froide. Et il fait le lien entre cette colère froide et ces gens qui prennent des décisions qui concernent de multiples vies et plutôt de multiples morts, tout en pensant à leur jardin, à leur confort personnel et à l'établissement et, disons, conserver, tout faire pour maintenir leur confort personnel. Donc, toujours au nom d'un partage d'un pays, d'une Europe, d'un Congo, ils pensent chacun à leur lopin. Et il parle de ces gens, donc dans la bataille d'Occident, dans Congo, et dans le 14 juillet, il crée la distance entre la masse des gens qui vont subir ces décisions qui sont toujours au nom du bien. Voilà. Et donc il fait parler ce dont on n'a jamais parlé, c'est-à-dire que aujourd'hui on fait de plus en plus parler les gens modestes, il y a de plus en plus des enquêtes. À un moment, Zola a fait une enquête qui a duré une semaine pour construire son roman qui s'appelle La débâcle, dans lequel il fait intervenir toute une foule de gens qui sont à la fois du un par un, mais qui sont dissolus dans la foule. Et aujourd'hui, on a un monsieur qui s'appelle Robert Lénard, qui a fait une enquête qui a duré un an aux usines Citroën et qui l'a fait advenir réellement quelque chose pour faire parler et faire sentir ce qu'est la vie de gens qui ne parlent que rarement. Donc aujourd'hui, où on a l'impression qu'on se retient un peu davantage, qu'on se retient un peu moins d'une certaine hégémonie acceptée, il y a des choses qui commencent à sortir, des choses qui commencent à pouvoir être dites, au travers d'un certain cynisme, au travers d'une certaine colère froide qui donne chez Eric un espèce de truc où il arrive à tire-bouchonner la vie d'un mec en trois pages. et il arrive à nous faire comprendre ce qui menait la personne, ce qui guidait ses actes, mais sans passer par tout un truc romanesque ou tout un truc historique. Donc, chez lui, c'est la création d'une autre dimension du roman, qui reste un roman, mais qui pourtant, on le lit comme un roman, et pourtant, ça n'est pas linéaire. On n'a pas la chose qu'on avait quand on lit un roman de vouloir savoir la suite, comment Madame Machin va réagir, etc. Non, ce sont des trucs qui sont coupés, qui sont des petits bouts de choses qui s'alignent et qui pourtant retiennent notre attention, retiennent notre étonnement, etc., même s'il n'y a pas de personnage central. Parce que sur ces petits bouts de choses, on passe d'une personnalité à une autre, toujours en rapport avec le terrain qui subit les décisions de ces personnalités. Le dernier en date étant 14 juillet. Donc avec ces dames, on a parlé d'Éric Vuillard et on a parlé également d'une personne qui s'appelle Pierre Bergougnoux, que je viens moi de découvrir il n'y a pas longtemps, et qui nous fait à plusieurs reprises et dans des formats différents une quête de ce qu'est l'histoire de la littérature, mais comme si il voulait dire quelque chose. Il n'est pas en train de créer la gare des Michards du tout, hein. Le contraire, comme si il voulait arriver à nous dire d'abord que certains récits n'ont pas trouvé, enfin certains événements n'ont pas trouvé leur récit, le récit qui a pu les amener à une certaine vérité. Il parle notamment de la révolution russe, mais il parle aussi de ces gens qui, dans le, comment ça s'appelle, Le baiser de la sorcière de Bergougnoux, ou un autre livre qui s'appelle BG17, il se met dans la peau de ces gens dont si peu sont revenus pendant la Première Guerre mondiale, notamment chez les Russes. Il n'y a eu que 3% des hommes engagés sur les tanks russes qui sont revenus. Donc le récit de la prise de Berlin par les Russes n'a pas de récit. Donc il est intéressant de voir comment dans ces bréviaires de littérature, dans cette remontée qu'il fait au sein de la littérature, il fait état d'une distance dans l'espace entre la personne qui raconte et la personne qui a vécu sur le terrain. Et il dit que très souvent, très longtemps, la personne qui raconte, c'est celui qui a du pognon, celui qui a de quoi bouffer, celui qui est chez lui dans le silence, et que la personne qui vit, elle vit quelque chose de complètement différent de ce que cet homme-là va raconter. Donc dans Le baiser de la sorcière, il essaye de comprendre ce que ce jeune homme sur les tanks russes, un tank qui est le méga des mégas qu'on a fait, puisque du côté d'Hitler, ils étaient affolés de ce qu'arrivait à faire sortir comme tank les Russes, et du côté des Russes, à un moment, ils se sont affolés de la réaction du côté d'Hitler des tanks qu'ils avaient mis en route. Mais ça a quand même, c'est très rigolo comment il raconte ça, hein. Bref, enfin, il s'est mis dans la peau de ce jeune homme qui pourtant est issu de la révolution russe. Et de l'autre côté de ce récit du baiser de la sorcière, il met un autre récit tête bêche qu'il appelle le récit absent, et qui est l'histoire de l'évolution de la littérature jusqu'à l'évolution particulière de la littérature au moment de Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine. Et il fait état de comment des jeunes hommes, avant cette prise de Berlin, étant nés au moment de Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine, comment ils ont pu vivre ce qu'ils ont pu vivre sur les tanks, en connaissance de cause de l'enseignement qu'ils avaient acquis à ce moment où la Russie, dans la littérature, passait un pas phénoménal pour tout le monde. Très intéressant. C'est difficile, ouais. Je sais qu'on n'a que 10 minutes.
Voilà, tout à fait.
On a donc parlé de ça avec les dames.
Leur tour. Alors justement, un mot sur vos autres interventions, rapidement, hein, si
ouais.
Je peux me permettre, sur
ouais.
Le collège Michel Bégon, dans un collège, une classe du théâtre conservatoire, la maison de Bégon, une maison de quartier, et
ouais.
Puis même la maison de détenus de la maison d'arrêt. Ça va être des interventions différentes. Comment vous les appréhendez, je dirais
Alors écoutez, je fais mon... Je suis pas, comment dire...
De quelle page d'histoire allez-vous parler, j'allais vous dire.
Je vous dire, mon métier est un outil. Donc je suis pas, je parle pas aux gens parce que je suis pour faire l'actrice. Je suis actrice parce que j'ai envie de parler aux gens.
Voilà.
Donc à un moment que je sois sur un plateau avec une grosse prod où on dit ou je sais pas quoi, ou que je sois dans une prison ou avec des mômes d'aujourd'hui ou avec je sais pas qui, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie d'écouter ce qu'ils pensent, j'ai envie d'entendre ce qui n'est pas dit, j'ai envie de percevoir ce qui n'est pas dit parce que moi je perçois que beaucoup n'est pas dit et je pense pas qu'il faut que tout soit dit. Je pense même que le silence est devenu interdit et que s'il y a bien une chose qui doit se dire, c'est le silence dont on est tous porteurs. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, je veux pas vous dire, j'ai plus 20 ans, donc je franchis pas tous ces terrains comme on le fait sur un cheval. Hein. Je suis un peu angoissée, on va dire, mais j'en ai très envie. Voilà.
Comme on dit chez nous en Sologne, vous êtes venu faire du parlage de la littérature contemporaine, en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut résumer comme ça.
Ouais,
mais ça peut...
ou essayer de faire buter la littérature contemporaine dans le cœur des gens,
ouais.
Et du coup, faire buter le cœur des gens sur la littérature contemporaine. Voilà.
On va le dire comme ça. Juste une dernière question, votre actualité
Ouais. Alors, l'actualité, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Alors là, on m'a demandé, il y a un truc, vous savez, tous les ans, Les pays doivent donner une liste de gens pour lesquels ils feraient un colloque international, ils participeraient à un colloque international en partenariat avec d'autres pays à la mémoire de quelqu'un. Cette année, il y a 24 pays qui ont choisi le même mec et on m'a demandé d'ouvrir ce congrès international à l'hôtel de ville de Paris, dans la salle des arcades. Je fais ça le 30 juin. Alors, bon, ça demande du boulot, je peux vous le dire. J'ai fait des recherches sur cette personne qui s'appelle A, je sais pas ce que c'est que ce A, J, je crois que c'est Julien, Greimas, G-R-E-I-M-A-S, c'est un Lituanien qui a été enrôlé dans l'armée lituanienne, il s'est évadé, il a été enrôlé dans l'armée russe, avant il a été fait prisonnier, puis il s'est évadé et il a été fait prisonnier par l'armée hitlérienne et enrôlé dans l'armée hitlérienne. Je sais pas comment il a fait. Après, il s'est retrouvé clodo à Paris et... Petit à petit, il a mis en route une science qui n'existait pas, qui s'appelle la sémiotique, qui est l'étude de la linguistique. Disant, soutenant qu'on était lituanien, qu'on ne pouvait pas s'en défaire, et que c'est la langue qui fait qu'on est ce qu'on est, et qu'on ne pourra pas s'en défaire, ni s'en échapper, qu'on soit français, qu'on soit tout ce que tu veux. Voilà, j'ai fait des recherches, pareil. Hein, c'est une espèce de passion, ce que je connais pas, des gens qui ont une vie que je n'ai pas du tout, qu'est-ce qu'ils ont pu porter. C'est la même chose que d'aller dans les prisons ou dans les trucs comme ça. Il y a ça. Après, je vais à Rochefort-sur-Mer, ils sont en train de monter une production qui a 3 volets sur le radeau de la Méduse, et on m'a demandé de faire la cantinière des armées. Et la première lecture de ce projet qui se met apparemment bien en route à Paris, donc pour être mis en scène, donc ça s'appelle, c'est le deuxième volet, la cantinière des armées. Le premier volet a déjà été créé en Afrique, je crois, il a été créé, mais il monte à Paris. Ça se met en route à Rochefort-sur-Mer le 22 juillet, la ville dans laquelle je suis né. Donc, et puis après, je me retrouve à tourner au cinéma. Au début août, avec un grand réalisateur, une très belle histoire. Je me permettrai pas de la raconter parce que le contrat est pas signé. Et puis je sais pas si voilà, je crois c'est une très belle histoire. Elle est dans le genre essayer de faire venir au jour des choses qui ne se disent pas, qu'on a du mal à dire. Et puis après, si tout se passe bien, j'enchaîne avec le grand plateau de Nanterre-Amandier, où j'ai un rôle central dans un Phédo, revu et corrigé par un auteur d'aujourd'hui qui a vraiment fait une version costaud-costaud. Hein. Elle s'appelle Noël.
Ça reviendra plus tard.
Noël, elle a fait une super version. Voilà, et puis apparemment, on me parle d'une autre production.
Voilà, bah, vous n'arrêtez pas, c'est Dominique. Hein, c'est bien.
Ouais,
c'est
mais
bien.
C'est mieux à nos âges de ne pas arrêter. Hein.
Merci, Dominique, d'avoir fait une petite halte dans notre studio. Donc, bonne résidence à Chambord, c'est merveilleux. En Loire-et-Cher, d'une manière générale, donc pour toutes ces interventions. Donc, c'est jusqu'au 26 mai, hein, me semble-t-il.
Hein. Voilà. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous cite très vite quelques auteurs?
On est un petit peu pris par le temps, pour ne rien vous cacher.
Donc, on arrête.
Voilà.
Hein,
si je puis me permettre.
J'ai axé sur les deux. Vous m'avez compris quand j'ai parlé de Pierre Bergoglio.
Un petit peu.
C'est pas facile. Ouais. Un petit peu seulement. C'est pas facile d'en parler. Ça demande 3 mois de boulot pour parler. Là, c'est un peu spontané comment j'en parle.
Merci Dominique Fro. Bonne journée à vous. À bientôt.
D'accord. Salut Denis.
Au revoir.